de lancer ces états généraux de la critique de projets d'espace public.
Quelles sont les visées et les enjeux de la critique d'espace public ? Partie 2 avec Éric Chauvier, Yann Le Guis et Léa Hommage. Quatrième épisode des états généraux de la critique du projet d'espace public, réunis les 21 et 22 novembre 2023 à l'École de la nature et du paysage à Blois. Un podcast présenté par le réseau critique et projet de paysage.
Alors, on va se réinstaller, s'il vous plaît, pour reprendre nos discussions, nos travaux. C'est avec grand plaisir que donc on accueille dans la suite de cette session toujours consacrée aux visées et enjeux de la critique qui a été tout à l'heure introduite en détail, trois nouveaux intervenants. Et donc, nous avons le grand plaisir d'accueillir Éric Chauvier, Yann Le Guis et Léa Hommage. On va brièvement les présenter avec Aurélien Ramos, également membre du réseau critique. Éric Chauvier donc, est anthropologue, professeur à l'École d'architecture et de paysage de Bordeaux. Son travail repose en fait sur des démarches d'enquête qui s'intéressent à l'ordinaire de la vie quotidienne. Il se caractérise par la recherche donc, de formes alternatives à l'écriture traditionnelle en sciences sociales, en invitant à redéfinir à la fois la place du chercheur comme celle de ce qu'on appelle les enquêtés, hein, les personnes qu'on rencontre dans les enquêtes, en favorisant les interactions. Cela le conduit à envisager non plus ces personnes enquêtées comme des simples informateurs, informatrices, mais des interlocuteurs. Cela conduit également à déplacer le rôle de l'enquêteur lui-même, qui l'invite à être attentif à ce qu'il appelle les dissonances de l'ordinaire, c'est-à-dire au ressenti subjectif face à des expériences vécues, ce qui fait de son travail un dispositif critique, réflexif envers sa propre discipline. Il emploie notamment comme point de départ souvent des situations qu'il appelle de troubles psycho-affectifs, je cite. Et donc cette démarche apparaît dans de nombreux ouvrages maintenant, qui sont souvent assez courts, incisifs, avec des titres eux-mêmes souvent assez courts, incisifs. Je vais en citer quelques-uns. Anthropologie, tout simplement, aux éditions Alia. Tous ceux que je vais citer d'ailleurs sont aux éditions Alia. Contre Télérama, en 2011, qui réagissait à une de Télérama qui s'appelait Halte à la France moche. Voilà. Et puis Les mots sans les choses, j'aime beaucoup celui-là aussi comme titre. Et Les nouvelles métropoles du désir, plus récemment. Il y en a eu d'autres ensuite avec un travail qui se dirige aussi vers la fiction. Peut-être qu'on entendra un mot à ce sujet. Mais pour terminer cette rapide présentation, dans ces derniers textes, parmi ces derniers textes publiés, il y a un article dans la revue Projet de paysage, qui est l'unique revue qui associe toutes nos écoles de paysage, revue en ligne en accès libre, dans lequel il propose, au travers d'une observation minutieuse de l'échangeur numéro 9 de la rocade bordelaise, l'hypothèse d'un paysage critique. Paysage critique, dont il va nous présenter aujourd'hui certains prolongements, qui, on le verra, s'apparentent à une forme de contre-histoire de la ville et de la modernité, j'en dis pas plus.
Donc, à la suite d'Éric Chauvier, on écoutera donc Yann Le Guis. Yann Le Guis, qui est donc architecte, qui est associé à et cofondateur de l'agence Sapiens Architecture, qui a été fondée donc en 2018, avec Baptiste Manet, qui lui est architecte du patrimoine, et également cofondateur de la maison d'édition Cosa Mentale. L'agence développe une approche qui associe les méthodes de lecture et d'analyse propres au champ de l'histoire et du patrimoine à une pratique attentive au territoire contemporain et aussi au territoire de l'ordinaire. Donc, dans le travail de l'agence, on voit une volonté d'articuler très étroitement les enjeux d'écologie et d'économie du projet. Et ça se traduit notamment par des travaux portant sur des architectures existantes, des travaux de rénovation, de réhabilitation. L'agence a été lauréate des AJAP en 2020. Donc associé à ça, Yann Le Guis est également maître de conférence associé à l'école d'architecture de Montpellier dans le champ TPCAU, donc théorie et pratique de la conception en architecture. Parallèlement à ces activités-là, Yann Le Guis développe aussi une activité, donc parallèlement aux travaux, aux activités de maîtrise d'œuvre et d'enseignement, il développe depuis longtemps une pratique de critique architecturale et urbaine. Alors tout d'abord dans le cadre d'un concours parodique Réinventer pourri en 2017, dont on a pas mal entendu parler, qui pointait du doigt un peu les effets délétères, notamment pour la conception architecturale, mais également pour les collectifs d'architectes et les agents d'architecture. donc les effets des appels à projets innovants. Donc aujourd'hui, cette activité elle se poursuit également et notamment sur les réseaux sociaux où il cultive un regard critique sur la production architecturale contemporaine, ce qui a valu pas mal d'échanges, dont tu pourras nous dire un mot peut-être. Donc il revendique une utilisation vraiment didactique de la critique, qu'il envisage comme un outil aussi autocritique et un exercice réflexif pour la conception en architecture dont on a déjà parlé un petit peu ce matin.
Enfin, j'ai le grand plaisir de présenter Léa Hommage, qui est paysagiste, associée à l'agence LALU, dont elle est cofondatrice et co-gérante. Donc LALU, c'est pour La Forme et l'Usage, qui est à Nantes. Elle a fondé l'agence en 2013 avec Mathieu Delmas. Et l'agence a été lauréate des AJAP 2018, elle aussi, et du concours Europan 12. Elle est aussi enseignante ici à l'École de la Nature et du Paysage, en atelier de projet de paysage en troisième année. Et elle définit le projet de paysage comme un dispositif, au fond, de conversation et d'échange guidé par trois actions, comprendre, mettre en forme, décrire. Ce qui met la dimension discursive, d'enquête également, et peut-être de critique, on va voir, au cœur du processus de transformation spatiale. Elle a publié récemment, dans l'avant-dernier numéro, le 20 des cahiers de l'École de Blois, un article intitulé « In aliore loco, aperçu d'un projet de paysage, enquête d'ailleurs », qui aura peut-être rapport avec ce qu'on va entendre maintenant. La parole est à vous.
Bonjour, merci pour votre invitation. Donc effectivement, j'ai essayé de réfléchir un peu à partir de cet article paru dans un projet de paysage qui prend un territoire à la fois commun et négligé, qui est l'échangeur d'un périphérique. En fait, je parle vraiment de mon propre vécu, c'est-à-dire que depuis bientôt 25 ans, pour me rendre à mon travail ou vaquer à des occupations diverses, je traverse plusieurs fois par semaine un vaste carrefour qui mène à la sortie 9 du périphérique qui sertit la ville, Bordeaux en l'occurrence, je suis en voiture bien sûr, qui sertit la ville, donc cette rocade. Nous sommes dans le périurbain, donc de la deuxième couronne bordelaise, par opposition au périmétropolitain, ça veut dire qu'ici on est sur des territoires qui bénéficient de l'influence économique de la ville. Alors que le périmétropolitain, c'est des territoires qui tendent à fameuse diagonale du vide, pour le dire un peu rapidement, à ne plus bénéficier de l'impact économique des villes. Cet échangeur permet donc, comme son nom l'indique, c'est un hub qui permet d'emprunter deux directions autoroutières, vers le sud, le Pays Basque, les Vacances, les Landes, Toulouse, et vers le nord, Paris, Nantes. Et dans sa périphérie ouest immédiate, nous trouvons un grand carrefour, qui dessert un carrefour, pas l'enseigne, la forme urbaine, qui dessert quatre communes, Mérignac, Aisines, Le Haillan et Saint-Médard-en-Jalle, où j'habite. Si on fait une analyse territoriale de cet échangeur autoroutier, cet échangeur numéro 9, il offre, c'est la première vue, un entrelacement de zones, commerce, équipement, bâtiments techniques, hôtellerie, infrastructures, des friches naturelles aussi, intéressant. Parmi ces fragments, on trouve aussi quelques humains, mais selon des temporalités très spécifiques. C'est ce que Bernardo Secchi, le grand urbaniste, appelait une zone diffuse, un paysage diffus, ou un territoire en peau de léopard, voilà, non planifié et donc diffus. Si on fait une analyse territoriale et économique, parce que je fais partie des anthropologues qui considèrent que si on veut comprendre comment les personnes habitent un territoire, on peut aussi habiter un échangeur autoroutier, eh bien il faut comprendre le modèle économique qui prédispose les usages de ce territoire. Donc si on fait une analyse territoriale et économique, l'échangeur numéro 9, en fait, il se déploie un peu à la façon de l'Edge City américaine, Edge City, la ville lisière. Je reprends ce qu'écrit Joël Garraud. Une edge city ne se distingue pas tant par une certaine configuration de l'espace que par ses points de repère les plus évidents, les centres commerciaux et les immeubles modernes de bureaux. L'échangeur numéro 9 est plus exactement un fragment d'edge city, c'est-à-dire qu'il constitue un pôle économique visible et diffus en même temps, visible parce que quotidiennement traversé et diffus par sa forme, qui prolonge, et c'est ça qui m'intéresse, économiquement la ville, dans sa deuxième couronne. Si on fait une analyse territoriale et économique, c'est aussi l'idéologie néolibérale nord-américaine du franchissement qui avait été pas mal étudié, notamment par Bruce Bégou dans Suburbia, un livre qui reprenait cette idée. C'est-à-dire que l'échangeur numéro 9 donne à voir et à penser le dépassement de la ville historique, à savoir Bordeaux, vers un développement suburbain, mais qui est hypothétique. C'est ça la ville du franchissement. Donc on crée des polarités urbaines qui vont ensuite se comme un phénomène tache d'huile, vont ensuite créer d'autres polarités. Dans l'idéologie néolibérale, ce développement doit devenir une polarité qui ensuite rayonnera pour créer d'autres polarités. C'est la ville du franchissement. D'où cette idée de hedge, de lisière qu'on franchirait. L'hypothèse, après, que j'essaie de mobiliser, en tant qu'anthropologue, ce qui m'intéresse, c'est que nous sommes... C'est les usages qui m'intéressent en tant qu'anthropologue, les usages de ce territoire. C'est que nous sommes au cœur d'un territoire qui est le territoire refoulé du centre de la métropole. Mon matériau d'enquête, ici, donc, c'est cette matière refoulée, impensée, presque l'inconscient métropolitain. Il y avait eu ces tentatives de psychanalyse urbaine qui, évidemment, moi je ne suis pas dans la psychanalyse, je suis dans la surface visible, dans l'empirique, dans les indices. Pour autant, ça me parle, cette idée d'un inconscient de la ville qui serait ici incarné par ce territoire-là. Comme les territoires du psychisme, selon Freud, il y aurait les territoires urbains comme ça qui reprendraient ce modèle-là. Bon, en tout cas, on pourrait le décliner. Par extension, c'est un territoire historique oublié. C'est ça qui m'intéresse, ce territoire sans histoire. Et pour moi, celui qui a le mieux parlé de l'histoire, mais il y en a beaucoup, mais enfin, c'est notamment Walter Benjamin. Hein, et il écrit « Les chroniqueurs qui narrent les événements sans jamais vouloir distinguer les petits des grands tiennent compte de cette vérité majeure que rien qui jamais ne sera produit ne devra être perdu pour l'histoire. » C'est la prose de Benjamin, c'est toujours très élaboré. Mais ça signifie que l'histoire s'écrit toujours, d'une certaine façon, en disqualifiant ce qui est supposé mineur, ce qui est supposé esthétiquement, ce qui n'est pas qualifié sur un plan esthétique. Et là, Olivier a parlé de la France moche. Là, voilà, on est vraiment sur cet échangeur, sur la une de Télérama en 2010, halte à la France moche. Cette esthétique-là est vraiment reprise, d'ailleurs, de façon très esthétisante par les journalistes de Télérama, par les photographes. C'est ça qui est intéressant aussi. Donc, ce qui est périphérique, ce qui est disqualifié esthétiquement, ce qui est supposé mineur, tout ça n'entre pas dans l'histoire, qui est l'histoire officielle, qui est celle de la ville. C'est là qu'il y a quelque chose de l'ordre du refoulé par cette histoire-là qui se trouve inconsciente. Une hypothèse est que ce sentiment suscité par le paysage de l'échangeur numéro 9, en fait... c'est un angle mort. Hein. Mais sauf que si on fait un pas de côté ou si on change légèrement son regard, cette histoire-là, elle est l'histoire de ce territoire-là est tout à fait digne d'être étudiée. Et là, je cite à nouveau Benjamin, « L'histoire a pour lieu un temps saturé d'à-présent, qui cite le passé comme la mode cite un costume d'autrefois. » Là, on est vraiment dans cette idée que l'histoire officielle de la métropole, ici Bordeaux, tout le monde la connaît. Mais si on veut vraiment s'intéresser à l'histoire qui a préfiguré, qui a ourdi, qui a nourri l'histoire officielle de Bordeaux, c'est à l'échangeur numéro 9 qu'il faut aller, dans ce paysage critique. L'échangeur de la sortie 9 semble en effet saturer ce que Benjamin appelle les à-présents, c'est-à-dire des voiles opaques comme ça qui établissent un rapport biaisé à ce territoire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on traverse ce territoire, on a l'impression qu'il est sans histoire. On a l'impression que l'histoire ne peut pas s'y déployer, et pire, elle ne peut pas s'y éprouver. Il n'y a pas de sentiment d'histoire. On est saisi dans un présent permanent. Et c'est là que je parle d'idéologie néolibérale. C'est un peu un terme un peu énorme, mais enfin, ça me semble pertinent si on considère que on est effectivement dans un sentiment de présent permanent, parce que c'est ce qui caractérise la modernité du capitalocène, en fait, ou de l'anthropocène. L'ère du capitalocène est justement marquée par le déni d'histoire. C'est ce qui se passe sur ce paysage critique de l'échangeur neuf. Pour produire des richesses durant la période qui a marqué le capitalocène, l'espèce humaine doit neutraliser ce sentiment d'histoire au profit du présentisme. C'est ce que Benjamin appelle ses présents. Toute forme de réflexivité ou de vision à long terme, en fait, endiguerait le processus même de croissance économique, parce qu'on se mettrait simplement à réfléchir, évidemment. Et donc ça poserait ce qu'on appelle des cas de conscience. Et ici, on est sur une zone, ce zoning de l'échangeur neuf, donc une accumulation de zoning, de dispositifs routiers, de bâtiments de stockage, d'enseignes, de mobilier urbain, qui relève justement de cette vision présentiste qui nie l'histoire. Mais ici, et c'est le point central de mon propos, c'est que l'histoire de la ville, elle n'est pas à Bordeaux-Centre, elle n'est pas sur la zone patrimonialisée de Bordeaux-Centre, elle est à l'échangeur numéro 9, si on veut comprendre ce qui se passe à Bordeaux. Donc, changer de regard... contre l'inesthétique, contre le banal, contre le quotidien, le périphérique, c'est prendre au sérieux ce paysage oublié comme objet d'enquête, en tant qu'il va donner des indices, en fait, des indices tout à fait pertinents de ce processus de refoulement. Je ne sais pas si il me reste beaucoup de temps. 5 minutes. Et donc, alors, je procède par parcours commenté que je m'inflige à moi-même, puisque j'y passe tous les jours, donc c'est plutôt pratique. Mais je tiens compte des ambiances. Donc, je suis très soucieux de ça. Et donc, premier parcours commenté, un mardi de brume, échangeur numéro 9, un mardi de brume, mardi d'activité, 9h du matin. La lumière est faible, diffuse, grise, incertaine. L'ambiance est plutôt mystérieuse. Et une impression apparaît, les enseignes, toutes les enseignes, alors on trouve beaucoup d'enseignes d'automobiles, puisque l'automobile est hégémonique, les enseignes et les infrastructures apparaissent fantomatiques, comme autant d'espèces d'apparitions étranges, qui renvoient aussi à une impression de malaise. Le malaise dans la modernité, si on veut vraiment le pressentir, il faut venir à la sortie 9, les matins de brume à 9h. Il faut vraiment tomber sur certaines ambiances très spécifiques. Parcours commenté numéro 2, un mercredi de grisaille, lumière pâle, froide, terne. L'ambiance éveille la nature glauque du paysage de l'échangeur, mais qui d'un coup met à jour son caractère fantasmagorique, au sens de Benjamin. C'est-à-dire qu'on comprend que toutes ces enseignes-là, ben, finalement, c'est de la fantasmagorie, mais qui est exsangue, qui est comme épuisée, en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur les rues marchandes de Bordeaux ou la rue de Rivoli à Paris. On est vraiment sur de la marchandise désactivée qui perd son pouvoir magique. Autre parcours commenté, canicule estivale, lumière ardente, éblouissante, brutale, crue. Cette ambiance révèle une disposition spatiale de l'échangeur numéro 9 en zoning strictement fonctionnel, qui serait l'expression même des contradictions écologiques et humaines que pose l'idéologie désinhibée qui détermine ce paysage. Parce que pour construire un paysage comme celui-là, il faut être totalement désinhibé, en fait. Il faut imaginer qu'un zoning a été rendu possible simplement au gré des désirs très ponctuels de ceux qui l'ont conçu. Maintenant, si on monte un peu en théorie, mais je ne sais pas si... Ouais. Mon hypothèse, c'est que ce paysage... Là, on est vraiment sur un paysage critique qui me semble tout à fait intéressant et qui répond, qui est extrêmement répandu dans la France moche de Télérama. Hein. Toute la France est très largement constituée de paysages critiques, intéressants donc à travailler, hein, et qui permettent, à mon sens, de déconstruire les récits de ce que j'appellerais la modernité néolibérale urbano-centrée. Je veux dire penser depuis les villes. Il y a deux types de modernité néolibérale, urbano-centrée. La première, c'est celle qui est désinhibée et celle qui a permis finalement que le paysage de l'échangeur numéro 9 devienne ce territoire impensé, refoulé de la ville-centre. Donc c'est tout ce que les concepteurs de la métropole, donc Bordeaux classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, tout ce que ces concepteurs ont disqualifié finalement, puisque plus on a qualifié le centre, plus on a disqualifié ce qui était en périphérie. Le lait, le non vertueux, donc l'automobile, la vie dortoir, la vie pavillonnaire, les deux véhicules par foyer, l'impossible covoiturage, les malls, les camions, l'empreinte carbone colossale et inévitable en l'état, la quasi-impossibilité d'une transition vers l'écologie, etc. À ce titre, le paysage de l'échangeur numéro 9 nous fait éprouver les limites, les insuffisances de la croissance métropolitaine, le discrédit d'un modèle économique qui s'épanouit en s'offrant une image de beauté et de vertu, mais dont le prix à payer serait la périphérie. Et c'est pour ça que ce paysage-là, il est critique, parce qu'il est refoulé. C'est parce qu'il est refoulé qu'il est critique. On peut saisir ce matériau brut, un peu comme les territoires inconscients qu'examinent les psychanalystes. Là, j'ai passé le temps. 2 minutes. Donc on va pouvoir parler de Bruno Latour. En fait, l'autre discours, l'autre type de modernité néolibérale urbano-centrée est celle qui se prétend vertueuse. Je reprends l'argument de Jean-Baptiste Fressos, qui a travaillé avec Bruno Latour, hein, mais qui dénonce une espèce d'illusion philosophique entre une modernité qui aurait été finalement totalement délétère, celle que je viens de décrire, et une modernité qui serait vertueuse, qui serait celle qu'incarnerait Bruno Latour et les latouriens, même si Latour n'était pas d'accord avec le terme de moderne, évidemment. Et le paysage critique, ici, permet de révéler l'illusion de cette distinction, à mon avis, entre ces deux modernités, cette modernité réflexive et une qui est vertueuse et l'autre qui aurait été catastrophique. Je pense qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est de penser la négativité de ce territoire-là. La pensée latourienne de l'acteur réseau, que vous connaissez, hein, qui est très intéressante au demeurant, mais pose une injonction d'être positif ou de positivité. C'est-à-dire qu'il faut s'entendre avec des non-humains, des minéraux, des objets, créer un parlement gigantesque et imaginer des transactions permanentes et des diplomaties entre tous ces êtres, toutes ces créatures. Le problème que pose ce modèle-là, c'est qu'il est éminemment théorique, et donc il ne peut pas attraper la négativité de ce territoire-là. Si on va même plus loin, on pourrait considérer aujourd'hui que ce territoire-là pourrait devenir un sujet à part entière d'une diplomatie. Mais je pense qu'on passerait à côté, et ça qui me semble préjudiciable dans la pensée latourienne, on passerait à côté de la négativité aujourd'hui du paysage critique. C'est-à-dire que, contrairement peut-être à ce qu'on voudrait, mais la négativité, elle est là, elle est partout. Je veux dire, le territoire de la Teste, qui a été, la ville de la Teste, qui a été très marquée par les incendies, qui est devenu un paysage critique, aujourd'hui, autorise 6 forages de pétrole, vous voyez, donc sans trop de difficultés, d'ailleurs. Donc là, on est dans un paysage critique qui est bon à penser, au sens où cette négativité-là est bonne à penser. Et la diplomatie, peut-être, recouvre et masque cette négativité. Donc je finis là-dessus. Évidemment, j'ajoute Philippe Descola dans ma critique, puisque ce continuum, ce part de la nature et culture, pour moi, il est plus fantasmatique que réaliste. Voilà. Merci.
Bonjour. Merci de me donner la parole. Alors, hier soir, en arrivant à Blois, je me disais, tiens, tu vas parler devant plein de paysagistes. Et pour me réconforter, je me disais, donc moi, je suis architecte. Je me disais, c'est pas grave, c'est des cousins. Enfin, c'est pareil, quoi. Et ce matin, je vois déjà qu'il y a des réserves au premier rang. Et en fait, ce matin, effectivement, par les présentations des concepteurs, je me suis dit qu'il y avait une différence... en fait, abyssal entre vous et nous, c'est que je pense que l'architecture, c'est un moment d'énergie et c'est la lutte contre l'entropie. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il y a l'architecture et c'est un moment d'énergie où on construit quelque chose, on édifie quelque chose. Et à partir du moment où on a livré le bâtiment, qu'on est architecte, hein, c'est la ruine qui commence, vraiment. On peut l'entretenir, mais en fait, je veux dire, comme disait Camus... Le monde finira toujours par vaincre l'histoire. Et en fait, je me suis dit que vous livrez un projet et en fait, il va se développer. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamentalement, je veux dire, ontologiquement différent. Et je trouve que c'est même très malin de s'allier avec le monde plutôt que de s'allier avec l'histoire. Et du coup, je suis un peu jaloux, mais bon, c'est comme ça. Donc, quand Olivier m'a proposé gentiment de participer aux états généraux de la critique, j'ai évidemment accepté par amitié. Avant de paniquer un petit peu quand il m'a envoyé le programme, et quand j'ai vu que j'étais avec Léa, qui est mon aînée à JAP, parce que c'est une AJAP 18, et Eric et Chauvier, qui en fait, je le dis doucement pour pas qu'il entende, mais en fait, moi, en 2012, j'étais chez Frédéric Bonnet, j'étais étudiant à l'école de Paris-Belleville, et moi, je suis un enfant de la périurbanité. J'ai grandi à Toulouse, qui est la ville du sprawl par excellence, le diffus, etc. Je connais par cœur, parce que j'ai grandi dedans. Et j'avais lu l'article de Télérama, et en fait, sans avoir les mots, je ressentais une colère, un peu une humiliation, parce que je sentais qu'il y avait un jugement esthétique, classiste. Et je savais pas mettre... Parce qu'en fait, l'environnement urbain dans lequel j'étais, les profs d'Urba, etc., n'arrivaient pas à expliquer ce que je ressentais. Et j'ai lu le petit bouquin chez Alia, que je recommande, du coup, qui s'appelle Contre Télérama. Et ça m'a permis de voir qu'il y avait des gens qui s'intéressaient à cette question-là. Et bien avant, évidemment, les Gilets jaunes, etc., c'est ce qui est quand même précurseur. Donc je voulais remercier Eric, j'en profite. Voilà. Au moment de parler de la critique, moi, quand je ne savais pas quoi faire, je panique. Et en général, quand je panique, je regarde un architecte que j'aime beaucoup, qui s'appelle Bernard Huet, que j'imagine que vous connaissez, qui est un architecte urbaniste, qui a été directeur de la rédaction de l'architecture d'aujourd'hui, je crois, entre 1974 et 1978. Et qui est un peu la figure tutélaire. C'est pour ça que je montre un projet construit de Bernard Huet, parce que c'est la rotonde de la Villette, pour ceux qui ne connaissent pas. Et à Stalingrad, pardon. Oui, c'est la rotonde de la Villette de Ledoux. En fait, c'est un projet que j'aime beaucoup pour tout un tas de raisons, que je ne ferai pas la critique ici. Mais c'est surtout la figure tutélaire de Bernard Huet qui m'intéresse, parce que c'est quelqu'un qui, à un moment donné, arrivait à rejoindre l'action et la pensée. Et dans une seule personne, c'est pas quelqu'un dans un service qui s'occupe de la pensée, puis après il y a l'action à côté. Et je trouve que ça, c'est fondamental. Et moi, c'est quelqu'un auquel je me réfère beaucoup. Donc sur la critique, évidemment, on lit Bernard Huet, et il a fait la préface d'un bouquin qui s'appelle Projet Utopie. Je me suis dit, attends, là, tu vas lire Projet Utopie, je l'avais jamais lu, c'est un peu un truc... quand on est archi, on se dit, un jour, je lirai ta fourrie. Et donc, je l'ai lu... c'est très très compliqué, enfin, j'ai pas compris grand chose, mais par contre la préface de Bernard Huet est très éclairante et elle parle du mythe d'Icare, ça s'appelle l'envol d'Icare, je crois, la préface, et ça a permis de... Donc Icare, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fils de Dédale. Donc Dédale, c'est le premier star architecte, hein, c'est le premier architecte de l'histoire, j'allais dire, celui qui, enfin occidental en tout cas, celui qui a créé le labyrinthe dans lequel il a enfermé le Minotaure qu'il avait créé aussi. Et à un moment donné, il s'est retrouvé pour des raisons politiques, il s'est retrouvé dans le labyrinthe et il devait s'échapper avec son fils. Et il ne pouvait pas s'échapper ni par la mer ni par la terre. Et du coup, il a inventé un système. Il s'est collé des plumes sur les bras pour s'échapper par les airs. Et du coup, au moment de s'échapper de l'île de Crète, il a dit à son fils, il ne faut pas s'approcher trop du soleil parce que tu vas te brûler, tu vas tomber. Donc évidemment, tout le projet, je vous raconte ça parce qu'en fait c'est la préface de Bernard Huet, c'est que en fait l'idée c'est qu'une fois qu'on a inventé la technique, il faut faire très attention de pas s'éloigner trop de la réalité et de s'affranchir des règles, de la raison naturelle, de la loi naturelle et de se casser la gueule. Mais en fait ce qu'on oublie c'est que Dédale il avait donné une deuxième consigne et ça c'est une peinture de Charles Landon de la fin du 18e je crois. Et que j'ai trouvé très belle, c'est qu'en fait, dans la consigne de Dédale, il y a de ne pas s'approcher trop du soleil et aussi ne pas s'approcher trop de la mer. C'est-à-dire que, en fait, les plumes, elles peuvent brûler, mais en l'occurrence, la cire peut se diluer aussi quand on est trop proche du sol. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, la critique, ça c'est... Bernard Huet peut-être serait content de moi, mais c'est que, en fait, je me suis dit, la critique, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, quelque part, l'exercice... la transformation du réel qu'occasionne la pratique de l'architecture, ça nous renvoie toujours dans une strate intermédiaire parce qu'on ne peut pas s'éloigner trop en théorie, en spéculation. Et par contre, on peut vite se retrouver trop bas, à ne pas avoir de hauteur de vue et à se noyer dans le court-termisme, j'allais dire le pain quotidien, etc. Et il me semble que l'outil privilégié pour s'éloigner et pas aller trop bas dans la mer, en fait, c'est la critique. C'est-à-dire que... En plus d'être un courtisan, donc là vous avez Castiglione à gauche qui est en contemporain du Quattrocento, il était un peu l'articulation entre Alberti, donc les premiers architectes, hein, les premiers vraiment de métier, j'allais dire, Alberti, Brunelleschi, etc. Je crois que c'est un contemporain de Palladio, parce qu'il me semble qu'il est à l'articulation du 15e. Il a écrit un bouquin qui s'appelle « Le livre du courtisan ». Et en fait, un architecte, c'est avant tout un courtisan. Moi, c'est ce que je dis toujours à mes étudiants, c'est-à-dire que l'architecture, ça se fait jamais seul. Il faut arrêter d'avoir l'idée, mais je pense que les paysagistes, c'est pareil. C'est qu'on répond à une commande. Quoi qu'il arrive, c'est l'invention de l'architecture, on répond à une commande. Et c'est pas nous qui formulons la commande, on est dans l'oreille des puissants, on n'est pas les puissants. Ça, c'est important. Sauf qu'il s'est passé des choses un peu après... Donc ça, c'est mon côté un peu Troisième République. C'est que on nous a donné la parole, quand même. C'est-à-dire que tout d'un coup, on peut être et un courtisan et un citoyen. Et à mon avis, la manière de rentrer dans le débat public, etc., c'est par la critique. C'est-à-dire qu'on n'est pas qu'un courtisan. Et la critique permet de s'affranchir, comme ça, d'une certaine quotidienneté, de montrer une hauteur de vue. Et ça, des vertus pédagogiques. Alors, les vertus pédagogiques, elles sont... Elles sont externes, c'est-à-dire qu'en gros, quand on explique un projet, etc., ça peut changer les conditions de sa propre production, mais par contre, surtout, elles sont aussi internes, c'est-à-dire que ça, c'est les salons de Baudelaire, donc, qui avait pris un pseudo qui s'appelait Baudelaire Dufays au début. Et en fait, Baudelaire, avant Les Fleurs du Mal, il a écrit 3 ouvrages critiques, mais quand je dis avant, c'est 10 ans avant, quoi. C'est-à-dire que je crois que Les Fleurs du Mal, ça va être 1856 ou quelque chose comme ça. Et en fait, le jeune Baudelaire, il fabrique sa théorie en étant critique d'art. Et ça, c'est un tableau de Courbet qui est à Montpellier. Je ne sais pas si j'ai dit j'habite à Montpellier. Et en fait, je vais souvent le voir parce que, en l'occurrence, Baudelaire, il défend un peu Courbet. Mais il a défendu plein de gens qui ont disparu, des peintres un peu médiocres, etc. Mais en fait, ça, c'est pas très grave. C'est-à-dire que la critique, ça sert à aiguiser ses arguments, ça sert à ça peut être une mauvaise critique aussi. C'est-à-dire que Baudelaire, il a pu se planter. Et je trouve que c'est enthousiasmant de pouvoir se planter. Et alors ça, c'est l'œuf ou la poule, c'est-à-dire qu'en fait, avec quand même comment on fait de la critique, etc., ça c'est tous les projets de l'agence. Donc j'ai un associé qui est à Paris, Aurélien l'a dit tout à l'heure, et moi j'habite à Montpellier. Et donc on a cartographié les projets de l'agence, et en fait ça explique un peu la difficulté d'être un courtisan et un citoyen en même temps. C'est-à-dire que quand on est un citoyen, qu'on habite dans la ville et qu'on réagit sur ce qu'on fait, en général on construit peu, parce que pour plein de raisons. C'est-à-dire qu'en général, vous vous embrouillez un peu avec les politiques, etc. Donc en fait, on ne travaille ni à Paris, ni à Montpellier, et on travaille un peu partout ailleurs, et notamment à Blois. Je vous montrerai à la fin. Et donc, une fois que j'ai expliqué où est-ce que je situe la critique, comme ça, dans mon parcours, je vais essayer... c'est bon, j'ai 5 minutes 4 minutes, j'ai 4 minutes. Ça, c'est Régis Debré, qui est un des premiers mecs qui portait la moustache avec élégance et que j'aime beaucoup et qui a surtout dit quelque chose auquel je pense tout le temps. Il dit qu'on est passé, je vous la fais très vite, de la graphosphère, de l'air, de l'écrit, etc. On a changé de structure, de médium, et on est passé de la graphosphère à la vidéosphère. Et en fait, dans la manière de critiquer les choses, il faut le faire différemment que ce que faisait Bernard Huet, où il écrivait des articles, il écrivait des choses comme ça, parce qu'on n'est plus sur la même époque. Et en fait, il s'est passé quelque chose en 2016, je ne sais pas si c'est toujours agréable de passer de Debré à Trump comme ça. Et en fait, en 2016, au moment où je montais, enfin en 2016-2017, il y a eu l'élection de Donald Trump. Et en fait, là, je me suis dit, c'est exactement ça, l'illustration du passage de la graphosphère à la vidéosphère, c'est-à-dire que tout d'un coup, il y a des gens qui sont arrivés à atteindre une sorte d'hégémonie culturelle, comme dirait Gramsci, grâce à la maîtrise des émotions. C'est en gros de dire on va s'adresser plutôt aux émotions des gens qu'à leurs raisons. Et ça, c'est un changement. Alors peut-être que, effectivement, peut-être qu'avant la graphosphère, il y avait d'autres choses. Mais en fait, en l'occurrence, des gens sont arrivés au pouvoir en s'adressant aux émotions. Et c'est des choses qui continuent aujourd'hui, parce que Trump, il peut revenir. Et puis, on voit en Argentine, ça se diffuse beaucoup. Et en fait, il s'est passé quelque chose, effectivement, c'est réinventer Paris. Donc, réinventer Paris, c'est les appels à projets urbains innovants, 2015. Je participe en tant que professionnel, disons, à la première mouture. Je vois les dégâts que ça fait. Et au début, il y a toujours une colère. Donc, du coup, lors du lancement en 2017 de la deuxième mouture de réinventer Paris, je me dis, attends, on va faire réinventer pourri un autre concours où on dit, là, au moins, on ne sera pas payé, mais au moins, on va se marrer. Et donc, j'utilise exactement les outils, les outils de l'alt-right américaine qui a permis à Trump de se hisser au pouvoir. C'est-à-dire, en gros, de s'adresser un peu aux émotions des gens, avec un ton rigolard, un peu comme ça. Et donc, je génère plein d'images. Et c'est ce que j'appelle la troll de guerre. C'est-à-dire qu'en réalité, on peut se rendre compte que face à la puissance de frappe de communication de la mairie de Paris, en fait, ce genre de choses-là, diffusées sur les réseaux sociaux, ça peut prendre une importance, alors que moi, je suis un petit mec dans le 11e arrondissement à l'époque, peut-être avec une moustache. Et du coup, en fait, je suis pas grand-chose, mais grâce à la puissance de frappe des réseaux sociaux, je peux arriver à mes fins. Et donc, je commence à faire des mèmes, des choses comme ça. Pardon, j'ai passé peut-être un peu vite, mais bon, en fait, c'est le principe même du mème, mais ça, je reviendrai dessus. Et en fait, ce que je me rends compte, c'est que sur le site de Réinventer Paris, ils n'ont pas filtré. Donc, en fait, je peux mettre... Et donc, pendant toute la procédure de Réinventer Paris, sur le site internet officiel, je pouvais troller un peu et mettre des informations sur mon faux concours parodique. Donc à la fin du faux concours, on a fait vraiment un événement à la Colonie, à Paris, avec un débat où c'était Catherine Sabat qui animait les débats, une table ronde, enfin plus ronde qu'ici en tout cas, avec Frédéric Bonnet, qui est ici, qui avait été mon enseignant. Et surtout, il devait y avoir Jean-Louis Missika. Jean-Louis Missika, je ne sais pas, ça évoque peut-être pas, parce que c'est... Mais Jean-Louis Missika, c'était l'adjoint à la mairie de Paris qui en ce moment, il y a eu la semaine dernière une enquête du parquet national financier pour prise illégitime de prise illégale d'intérêt. Et du coup, en fait, il est dans des embrouilles pas possibles. Mais donc, c'était sa numéro 2 qui s'appelle Marion Weller, qui était venue le représenter. Et il se trouve que Marion Weller, maintenant, elle dirige le pavillon de l'Arsenal. Et donc, c'est bien, parce que les gens, sur des dégâts comme ça, en fait, on peut avoir aussi la mémoire courte. Et les architectes sont très sympas parce qu'ils filent leurs institutions à des gens qui leur font du mal. Donc je suis je suis intervenu aux visiteurs où j'ai rencontré où j'ai rencontré Olivier. Et j'ai continué cette activité critique en faisant des mèmes sur Internet, par un réseau social qui s'appelle Instagram, que je ne vous présente pas. Et donc, c'est pareil, j'ai continué comme ça pendant un certain nombre de temps à faire des mèmes. Voilà, c'est faire des mèmes. Donc, ça, c'est des collègues. Ça, c'est une opération de logement de collègues à moi à l'école d'architecture de Montpellier. Et qui m'aime pas trop, du coup. Je vous en montre juste quelques-uns, mais évidemment, l'idée, c'est de faire changer. Bon, en plus, ça prend pas de temps à faire. Enfin, c'est tout bénef. Hein, faites des mèmes. Voilà. Alors, le problème, c'est que ça m'a conduit à me dire, mais en fait, ça m'a rendu connu, si vous voulez, dans un petit milieu qui est notre milieu, là. Voilà. Et moi, ça me fait l'effet des 12 hommes en colère, les gens qui arrivent à résoudre une injustice, et puis une fois qu'ils sortent de leur truc, ça se dilue, etc. Et ma mère continue à m'envoyer des revues de presse en me disant « Regarde, t'es dans la ville de l'Arbre Blanc, c'est super. » Et en fait, il faudrait que je m'adresse aux gens comme ma mère, c'est-à-dire, en gros, il ne faut pas que je gère le problème, la critique, il faut qu'elle s'adresse à d'autres personnes. Et donc, du coup, ce que je suis allé faire, c'est que je suis allé sur LinkedIn, je vais très vite. Et sur LinkedIn, j'ai continué à faire. Donc, vous voyez, en fait, à la base, quand je sors du bureau, j'ai cette tour qui a été faite par Brenac et Gonzalez, qui est une tour de logement de luxe dans Montpellier, un truc absurde. Et donc, moi, depuis longtemps, je me disais, mais en fait, c'est pas assez marrant pour être un mème, ça. Mais quand même, on dirait un paquebot qui écrase Venise, quoi. Et en fait, à un moment donné. Et du coup, j'ai essayé d'expliquer ça dans un petit texte en disant que à Montpellier, on détruit une tour. Et on en fabrique d'autres. Et en fait, ça pose des questions de typologie. C'est-à-dire que tout d'un coup, toute la ville est surplombée par cette espèce d'énorme tour de logement de luxe. Enfin, c'est un peu absurde. On voit une petite église, là, qui devait être probablement le bâtiment le plus gros du faubourg à l'époque. Et puis maintenant, il y a ce paquebot qui arrive au bout. Et en fait, ça, je ne sais pas si vous voyez le chiffre en bas, tout d'un coup, j'ai fait ça sur LinkedIn, qui est un réseau social hyper corpo, etc. Et là, tout d'un coup, j'ai une audience absolument fantastique. 50 000 personnes qui ont cliqué. Donc, ça, c'est les taux d'engagement, c'est-à-dire qui ont cliqué, qui ont lu mon texte. Et là, je me suis dit, tiens, c'est marrant, parce que LinkedIn, qui est un truc corpo, quand il est utilisé à contre-sens, c'est-à-dire vraiment pas pour dire, moi, j'ai posé le carrelage de telle opération, etc., ben, en fait, ça marche très bien. Enfin, peut-être que c'est en train de changer. Et du coup, j'ai continué à faire des textes, avec des audiences vraiment spectaculaires et des effets assez forts, avec deux... Je vais juste conclure, je conclue. Avec... L'histoire de Véronique Bédague, j'ai fait un post récemment sur... pas récemment d'ailleurs, il y a peut-être 6 ou 7 mois, sur la PDG de Nixity qui confondrait la crise de l'immobilier et la crise du logement sur France Inter. C'est un post qui a été très vu, très republié, etc. Et j'étais contacté par le député qui a fait la loi ZAN, parce qu'il s'est dit, tiens, il y a un architecte qui parle, et qu'est-ce qu'il a à dire? Donc il m'a reçu à l'Assemblée nationale, qui n'est pas du tout de mon bord politique, je lui ai dit d'entrée de jeu. Et en fait, je lui présente récemment, je fais des dîners à l'Assemblée nationale grâce à ça, où je lui présente, parce que les gens qui sont en situation d'action, ils n'ont plus le temps de réfléchir, je lui présente des gens qui réfléchissent. Donc je lui ai présenté Philippe Biwix, je lui ai présenté tout un tas d'intellectuels que moi j'aime bien, et qui ont l'occasion de discuter avec lui. Voilà. Et un deuxième truc, c'est que l'Arbre Blanc, je me suis fait voler un post LinkedIn dans la presse locale, et donc j'ai menacé de porter plainte parce qu'ils l'ont publié sans mon autorisation. Et j'ai dit, en revanche, soit je porte plainte, soit vous me laissez un encart de la même taille et je fais des posts critiques positifs sur des trucs que j'aime bien à Montpellier. Et donc, en l'occurrence, j'en ai eu deux encarts où j'ai pu faire de la critique positive. Voilà. Je finis juste par ce petit bâtiment de Blois, à mon avis, qui est bien mieux que tout ce que je dis. Voilà.
Merci également de m'avoir invité. Je pense que vous allez moins rire, mais c'est pas grave, vous ne m'en voudrez pas. Cet exercice, il n'est pas évident, parce qu'effectivement, la question de la critique de projets d'espace public, je crois que j'y suis à la fois très attachée, parce que j'ai été étudiante de Denis Delbar et Sabine Herman à Lille, qu'on avait eu la chance de suivre à l'époque un séminaire de critique de projets d'espace public. Et voilà, je sais que c'est quelque chose qui était resté... Enfin voilà, qui reste actif pour moi avec la lecture de bancs publics qu'on fait en agence en général. Et puis, mais je me suis demandé ce que j'avais à en raconter moi en tant que conceptrice praticienne avec une agence qui a 10 ans, qui est effectivement un peu plus vieille que celle de Sapiens, mais qui n'a pas non plus une très longue pratique, ce qui fait que je n'ai pas non plus cette capacité de recul, cette distance critique vis-à-vis du travail que l'on produit. Et donc voilà, je me suis donné un exercice, j'espère qu'il sera concluant, mais celui d'évoquer cette question de la critique au travers de trois expériences traversées dans le cadre de la production d'un projet d'espace public, depuis sa conception jusqu'à sa réalisation. Ce projet, c'est le parc de Pinouette à Saint-Nazaire. Donc voilà, c'est un projet d'un parc de 3,4 hectares qui est situé au niveau du quartier de Méhan-Pinouette, au nord de la ville. Et ces trois expériences que je vais évoquer, je crois qu'elles ont à voir avec cette question de la critique. La première, elle concerne l'importance de comprendre les projets qui nous ont précédés pour pouvoir faire projet de ce qu'ils nous ont laissé. Ça, je crois que c'est un sujet qui n'a pas été tant évoqué que ça ce matin dans la première table ronde des concepteurs. C'est comment, en tant que concepteur, on regarde aussi les projets qui nous ont précédés et pas que la question du site comme étant un donné géographique ou historique, mais aussi comme ayant été un élément de projection. La deuxième, c'est elle interroge notre capacité dans l'exercice de la maîtrise d'œuvre à faire œuvre de critique sur ce que nous sommes en train de produire. C'est a-t-on la distance nécessaire pour le faire ? Et la troisième portera sur les vertus du déplacement, aller voir ailleurs pour voir à nouveau. Je vais donc parler, et je vais essayer de tenir dans le timing, de 15 pins maritimes, d'un ginkgo biloba et de 2500 balivaux. Je vais commencer par l'histoire des pins. Le projet tel qu'on l'a pensé, je ne vais pas donner énormément d'éléments de contexte, mais bon, ils vont venir un peu au fur et à mesure. Mais le projet tel qu'on l'a pensé, il s'est appuyé sur l'idée assez simple de mettre en relation deux mondes, le monde gigantesque, bruyant, industriel des chantiers navals, donc de la zone industrielle ou portuaire, et le monde plus ramassé, calme, résidentiel du quartier de Méhan-Pinouette. Ces deux mondes se font à l'endroit du projet, se font face dans une relation de proximité qui jusqu'alors n'avait pas vraiment été prise en charge, plutôt par des terrains délaissés en fait de l'infrastructure, donc des espaces non aménagés qu'on pourrait qualifier de friches. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, mais en tout cas, voilà, une espèce de distance peu qualifiée. L'analyse des cartes historiques, des cartes géologiques, et puis finalement donc des cartes géologiques, historiques et géographiques, et puis finalement la découverte de cette photographie d'archives nous a appris qu'en fait les terrains sur lesquels on était en train de réfléchir étaient d'anciennes prairies humides qui appartenaient aux prémarais ligériens, tout au sud des marais de Brière, et que ces terrains avaient été progressivement drainés puis comblés, mais sur une plus faible épaisseur que celle du terre-plein industriel, ce qui fait d'ailleurs qu'à Méhan-Pinouette, l'eau ne coule pas vers la Loire. On l'a vu tout à l'heure, on se situe... les terrains étaient ici, et donc on est entre le quartier, le terre-plein industriel, et l'estuaire est là. Assez vite, on s'est dit qu'il fallait trouver une manière de mettre en relation, notamment en relation visuelle, ces deux mondes, qu'il y avait un enjeu à retrouver l'ouvert de la prairie qui avait été perdue, puisque finalement un espace qui était au centre du projet qui s'appelle le Square des Aviateurs, qu'on voit sur la photo en bas à droite, c'était un peu le seul endroit non bâti du quartier, donc probablement le seul où on avait cette capacité de retrouver de l'ouvert, un rapport au ciel et une mise en relation, en regard de ces deux mondes. C'est une idée qui nous a beaucoup intéressés, et donc on a produit ce collage. C'est un collage qui est fait à partir d'une peinture d'un peintre inconnu, parce que c'est très compliqué de trouver des représentations picturales des marais, autant la mer, la forêt, tout ça, on trouve beaucoup de choses, mais alors les marais, c'est un peu compliqué, mais on a trouvé cette œuvre, et donc on a produit ce collage, qui est un vrai collage, avec du papier découpé et de la colle, et qui cherchait à montrer finalement la possibilité de cet espace ouvert, prairial, avec en arrière-plan le grand portique de la ZIP, et puis au premier plan les petits pavillons du quartier de Méhan-Pinouette. Cette idée, elle a assez vite... notre maîtrise d'ouvrage, les habitantes et les habitants avec lesquels on avait engagé une démarche de concertation, les services techniques de la ville ont assez vite adhéré à cette idée, et a priori donc à ce qu'elle engageait en termes de travaux, à savoir notamment le déplacement d'installations de jeux, le renivellement complet de cet espace et l'abattage d'arbres. Et c'est là où je voulais en venir. c'est que, en fait, il y a un sujet qui, à un moment, est devenu un vrai sujet de crispation et qui a failli presque, enfin voilà, qui a ralenti les études, qui fait qu'on a, on a perdu beaucoup de temps, enfin ou pas, en tout cas, on s'est engagé dans des très longues discussions. Et ça consistait en l'abattage de cet alignement de pins que vous voyez sur cette photo, puisque pour nous, c'était une des conditions essentielles du projet. Pour réouvrir le regard vers les chantiers, pour réouvrir cette prairie, il fallait abattre cet alignement de pins. Et cette affaire est allée assez loin. Elle s'est conclue par un arbitrage du maire de Saint-Nazaire dans son cabinet. Mais on comprenait pas pourquoi ces pins-là, plutôt que les érables qui étaient juste à côté. Enfin, il y avait une espèce de crispation autour de ce sujet qu'on n'arrivait pas bien à saisir. Et finalement, on a compris, c'est là où je voulais en venir, que si ces pins résistaient tant, c'est parce qu'en fait, ils avaient fait l'objet d'un projet. En l'occurrence, d'un projet politique, conduit dans les années 90 par la ville de Saint-Nazaire, qui était celui de dire Saint-Nazaire a une image industrielle ou portuaire, on veut qu'elle ait une image littorale et balnéaire, et donc on va planter des pins maritimes. Et c'est un projet, en fait, qui était un projet assez fort, dont nous, on n'avait pas compris, finalement, l'impact sur le projet et sur les décisions de projet qui allaient pouvoir être prises par la suite. Et donc, on a fini par comprendre ça parce que notre maître d'ouvrage direct avait été impliqué à l'époque dans la plantation de ces pins. Le maire a fini par arbitrer en disant « Il est hors de question qu'on abatte toute la ligne, mais vous pouvez créer des ouvertures. » Et donc, c'est ce qu'on a fait. Finalement, il y a, sur l'alignement d'une quinzaine ou d'une vingtaine de pins, on en a abattu cinq. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que de comprendre finalement ce qui s'était joué avant nous et d'une certaine manière continuer de se jouer aujourd'hui, en termes de symbolique, d'attachement, de projet, d'actes de projet, nous a aidé à nous ressaisir de la question, à reprendre notre copie, mais à la reprendre en conscience de ce qui s'était passé avant. Je vais maintenant parler de ces photographies. Ces photographies, elles sont issues de ce qu'on appelle, avec le photographe qui les a prises, qui s'appelle Gaëtan Chevrier, elles sont issues d'un OPPC, enfin c'est comme ça que nous on l'appelle, donc un observatoire photographique du projet de paysage en chantier ou un observatoire photographique du parc de Pinouette en chantier, c'est au choix. Ces deux photos-là sont issues donc de la reconduction pendant 3 ans et 2 fois par an d'une dizaine de points de vue, de prises de vue qui ont été déterminées en amont du chantier et qui cherchent à documenter la transformation d'un espace public au fil des 3 ans qu'ont duré le chantier, enfin un peu moins, mais... Et alors, en préparant cette table ronde, je savais que j'allais parler de ça parce que ça fait probablement partie des quelques outils un peu méthodologiques qu'on a pu mettre, enfin non, d'ailleurs pas des quelques, c'est l'outil méthodologique qu'on a mis en place ces derniers temps pour réfléchir justement à la question de la transformation d'un espace. Et en fait, je suis encore bien en peine de dire pourquoi on a fait ça. Je crois que pour l'instant, on n'a pas encore le recul véritablement pour analyser cette matière. Mais je crois quand même qu'elle a ceci d'intéressant, qu'elle poursuit finalement une histoire de représentation. Parce qu'assez tôt dans le projet, en fait, au départ de la commande, il n'y avait pas l'idée d'un parc. C'est-à-dire que la commande à laquelle on a répondu, elle consistait à aménager la façade du boulevard des Apprentis. Le boulevard des Apprentis, c'est un boulevard industriel qui traverse la zone industrielle au portuaire. Et c'était donc essentiellement un projet de compensation d'une infrastructure routière. Il s'agissait d'aménager des terrains un peu en délaissé le long de cette infrastructure routière. Et donc on a, dès le début du projet, ça c'est des photographies prises par des habitantes et des habitants dans le cadre de la démarche de concertation qu'on a engagée, des photos prises à l'appareil photo jetable de leur quartier. Ensuite, on a produit ces collages dont j'ai déjà parlé. On a produit cette bande dessinée d'un parcours possible dans le parc. Enfin, en tout cas, je crois qu'on cherchait à trouver des manières de faire exister ce parc pour nous, déjà, mais aussi pour les services, pour notre maîtrise d'ouvrage, pour l'ensemble des acteurs engagés dans ce projet. Donc je crois déjà que voilà, ce travail de photographie qu'on a confié à Gaëtan Chevrier, je crois qu'il venait prolonger cette question, cette histoire d'une représentation d'un projet. Mais qu'en même temps, on ne pouvait pas le faire nous, parce qu'on le sait tous, le chantier c'est une urgence, enfin c'est traiter des urgences. Et donc on n'avait plus, ou pas en tout cas, ce recul nécessaire pour documenter ces étapes de transformation du site. Donc voilà, je ne sais pas trop ce que ça nous a appris, si ce n'est qu'on a laissé transplanter un tout petit ginkgo biloba qui est sur la première photo tout à gauche et que c'était une erreur et qu'on le regrette. On trouve qu'il manque aujourd'hui, mais voilà. En parallèle de ce travail de reconduction de prise de vue fixe, Gaëtan avait l'opportunité de photographier le chantier en train de se faire. Et je crois que voilà, ça aussi, c'était quelque chose qui nous intéressait. C'était de montrer comment... Alors, on s'éloigne un peu de la question de la critique, peut-être, mais c'était aussi de documenter ce processus de transformation, là aussi dans une visée pédagogique, c'est-à-dire voilà, comprendre comment ça se fabrique. Et voilà, il y a beaucoup de photos. En vrai, je les ai ouvertes presque pour la première fois en préparant cette table ronde. C'est-à-dire qu'on a accumulé beaucoup de matière, mais le chantier il est livré depuis septembre et on n'a pas encore vraiment pris le temps de s'en saisir. Si ce n'est que ça montre évidemment des états du site qui nous intéressent beaucoup, notamment le moment des piquetages. Bon, voilà, c'est pas le sujet. Et puis parmi toutes ces photographies, il y en a une qui nous a beaucoup perturbés, c'est celle-ci. Parce que c'est une photographie qui montre un état intermédiaire du projet qui nous plaît beaucoup. Au premier plan, ce qu'on voit, c'est un merlon de terre. Au deuxième plan, les pales planches qui ont permis d'étirer ce merlon. Parce qu'en fait, on avait un merlon là qui avait été construit par les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale et planté par les Allemands, qui à l'époque faisait 500 mètres de long et ensuite avait été amputé. Et en fait, dans le cadre du projet, on devait gérer 8000 m3 de terre polluée issue de la construction du boulevard des Apprentis, donc issue d'un chantier qui n'était pas le nôtre, dont on n'assurait pas la maîtrise d'œuvre, mais on devait, essentiellement pour des raisons budgétaires, prendre en charge ces terres polluées. Et donc on s'en est servi pour étirer et remodeler ce merlon. Et en fait, cette photo, elle est juste après le fonçage des pales planches et le terrassement du merlon, mais elle est avant la plantation de 2500 baliveaux. Et en fait, il y a tout dans cette image. Il y a le merlon, il y a les hangars, il y a le paquebot au dernier plan, et puis on devine même les toits des maisons. Et c'est une photo qui restait comme ça, un peu comme une... 2 années de suite, on s'est dit qu'on allait en faire notre carte de vœux, et puis on n'y arrivait pas. Mais je crois parce qu'elle montre un moment du projet que peut-être on n'a pas complètement assumé. Et puis en fait, je crois qu'on a compris pourquoi elle nous plaisait tant. Après, elle est allée voir le Riemer Park à Munich, un projet d'Yves Wexler et de Laurence Vachereau de l'agence Latitude Nord. Un très grand projet, pas du tout dans les proportions du parc de Pauwels. Un très beau projet, si vous n'y avez pas été, je vous invite à le faire. Et en fait, on est revenu du Riemer Park avec une espèce de confiance renouvelée dans la capacité du projet de paysage à fabriquer de l'émotion. Je ne sais pas trop comment le dire autrement, mais et puis ça nous a interrogé sur la manière dont on avait décidé de planter ce merlon. Parce qu'en fait, les 2500 baliveaux, ils visaient essentiellement à compenser un trauma qui a été celui de l'abattage de centaines d'arbres sur ce merlon. Parce qu'évidemment, pour remettre en place 8000 m3 de terre, il a fallu tout abattre. Par ailleurs, il y avait des problématiques de, encore une fois, de sol pollué et d'arbres fruitiers. Donc il y avait problématiques de sanitaires, mais il fallait confiner ces terres. Mais voilà, et donc quand on a imaginé le planter, on s'est dit bon bah on reconstitue finalement un état antérieur au projet. Et en revenant du Riemer Park, on s'est dit mais peut-être qu'on n'aurait pas dû le planter comme ça. Mais voilà, c'était juste pour dire, et je conclue là-dessus, c'est terminé, que dans ce mouvement du projet, le fait à un moment d'être allé voir un autre projet, évidemment, ça nourrit de manière rétroactive nos propres productions. Et je crois que c'est quand même, enfin en tout cas pour moi, c'est une des grandes vertus de la critique, c'est qu'elle installe une sorte de conversation entre les projets, en tout cas une conversation possible, qu'on n'a pas nécessairement nous en tant que concepteurs avec d'autres concepteurs, même si moi j'adorerais faire ce que vous décriviez ce matin, les 2 ans de débat sur les projets en cours dont parlait Jacques Coulon, mais disons que voilà, la critique, les articles de banc public, ce qu'on peut lire, les conférences aussi de concepteurs, mais je crois qu'ils nous permettent d'installer cette conversation entre les projets et du coup de nous inscrire dans une familiarité à laquelle moi je suis assez attachée. Merci.
Merci vraiment à vous trois d'avoir tenu le timing. Et ben, je vais te prendre au pied de la lettre ce que tu viens de dire, Léa, et vous inviter à peut-être une première réaction entre vous trois, une conversation comme ça. ou pas, mais enfin, si vous le souhaitez, en tout cas, vous êtes les bienvenus pour réagir déjà à ce que vous avez entendu à l'instant. Et puis, vous, comme ça, vous pouvez préparer nos questions, nous, la salle, pour interagir avec vous. On a une petite trentaine de minutes. Voilà.
Ouais, je me lance. C'est pour réagir de suite à la conclusion de Léa, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a quand même une condition dans les agences d'architecture et de paysage, excusez-moi, de paysage et d'architecture, mettons, c'est qu'en fait la critique, comme ça, d'aller voir des projets et de les critiquer entre nous, j'ai l'impression que ça se fait, c'est même la condition d'exercice un peu, enfin, quand t'as un associé ou quelque chose comme ça, en fait c'est qu'on passe notre vie à dire du mal des autres. Alors qu'on le fasse en public pendant deux heures officielles ou qu'on le fasse en arrivant le matin en prenant un café, en fait c'est presque comme ça qu'on se construit. Alors le truc c'est que j'ai l'impression que quand on le fait comme ça spontanément entre nous, on le fait mais avec des facilités, des modes de communication avec son associé qui est pas forcément, qui nous sert de manière interne, mais qui nous sert pas vraiment de manière externe. Et en fait moi je trouve que le fait d'articuler des arguments, de raisons pour expliquer pourquoi j'aime pas ce projet, ou pourquoi je l'aime, en fait, moi, ça me fait vachement... Enfin, moi, personnellement, ça me fait progresser, et j'ai l'impression surtout que ça peut transformer, si j'ai un élu qui lit... Un élu ou quelqu'un des services qui lit pourquoi j'aime un projet ou pourquoi je l'aime pas, j'ai l'impression que ça peut transformer son regard, aussi. Et du coup, ce qu'on fait de manière interne, j'ai l'impression que c'est une nécessité de le faire aussi de manière externe. Je sais pas si c'est clair, mais en gros, c'est... Du coup, le rôle de la critique, il y a quand même un rôle externe pour moi.
Moi, quand je disais que la critique me semblait nécessaire pour installer une sorte de familiarité, c'était pas non plus que sur l'objet produit. C'est-à-dire que ce que je trouve intéressant à la lecture, je fais de la pub, mais de banc public, c'est qu'il y a quand même aussi le retour sur la commande, et sur certaines impasses ou sur des choix de conception. Et je trouve que ça, nécessairement, ça nous permet de faire des liens avec les situations auxquelles on est nous-mêmes confrontés. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse dans cet exercice critique. Après, oui, c'est consubstantiel de notre pratique. Ça, c'est vrai.
Pendant que vous cherchez vos questions, effectivement, je vais vous relancer un tout petit peu sur la question peut-être commune à vos trois exposés avec des registres et des échelles un peu différentes, qui serait celle peut-être des émotions et d'une forme de rapport effectivement extérieur ou public aussi aux émotions, le refoulement notamment dans le cas de ce qu'a raconté Eric, les histoires d'hégémonie culturelle passant par la maîtrise des émotions dans le cas de Yann, et puis dans le récit à l'instant, intéressant d'avoir au fond aussi un rapport vers les émotions qui sont quelque part déposées dans les espaces. De cette manière, j'ai bien aimé l'ouverture à la fin. Est-ce que vous voulez réagir là-dessus? C'est-à-dire que ça rejoint une sorte de bouclage entre l'espace public, mais le fait de faire cette critique comme une mise en public aussi, ou une mise en évidence. Alors, tu as parlé de externe à l'instant. On est en train aussi déjà d'entrevoir ce qui se passera demain, on parlera des médias, mais juste là, sur l'aspect visé et enjeu, est-ce que cette dimension de rendre public, vous diriez que ça fait partie du travail critique qu'on peut essayer de faire ensemble, et comment ça pourrait prendre forme?
Oui, merci. Sur l'émotion, peut-être... alors moi, je connais bien moins l'architecture que vous, même si je travaille avec des architectes, donc je deviens un tout petit peu... Mais il me semble que l'émotion est quand même à la base. Alors tu avais cité, Olivier, Georges Desvreux tout à l'heure, le trouble psychoaffectif. Il me semble qu'il n'y a pas de démarche de recherche, en tout cas, s'il n'y a pas ce trouble psychoaffectif, s'il n'y a pas donc cette émotion qui nous déborde un peu, sur l'échangeur numéro 9, ça peut être une émotion esthétique, ça peut être quelque chose de négatif aussi. Hein, les négativités, comme j'essaie de le dire, elle est bonne à penser et à ressentir surtout. Mais ce trouble psychoaffectif, il est à la base du projet pour moi. Je sais que ce n'est pas si simple pour les architectes ou les paysagistes de considérer ça, mais il me semble en tout cas qu'il y a quelque chose dans l'émotion qui nous prive du langage. C'est-à-dire que c'est une exigence de langage, l'émotion. Donc ça permet de lancer sans doute un projet et sans doute, pour moi, une enquête. Donc quelque chose de très proche aussi dans cette capacité à accepter cette base émotionnelle. Dans la recherche, on nous dit que ce n'est pas objectif. Mais en fait, pas du tout. Oui. Devreux nous dit qu'il n'y a pas de recherche si on n'est pas au début un peu ébranlé par ce qu'on voit, par le fait que ça nous semble inacceptable, ça nous semble au contraire très beau, etc. Quelque chose qui nous échappe. Voilà.
Tout à fait. Et en fait, quand tu parlais... Je me disais que probablement le meilleur texte que j'avais lu sur les questions des échangeurs, enfin quelque chose qui, c'est L'île de béton de Ballard. Et je ne sais pas si vous connaissez, c'est un écrivain de science-fiction qui à la fin des années 80, non, fin des années 70, je crois, qui a fait un triptyque Crash qui a été au cinéma, je crois, bah, IGH, et, ouais, par Soderbergh. Et il y en a un qui s'appelle L'île de béton, où c'est quelqu'un qui a un accident de voiture et qui se retrouve projeté au milieu d'un échangeur et qui ne peut pas s'en échapper comme ça. Et qui se rend compte que finalement, il y a une vie au milieu de cet échangeur, etc. Et en fait, je ne sais pas si... Je vais faire un lien avec la table ronde précédente, mais en fait, la narration, tout d'un coup, je pense que c'est un outil qui est... un outil critique, comme ça, qui permet de sortir du champ. En fait, moi, je suis toujours un peu obsédé par cette idée de sortir du champ. C'est qu'en fait, pendant qu'on se fait des états généraux de la critique, etc., moi, je prenais le train, enfin, pendant que je faisais des vérandas dans le sud de la France, hein, en gros, des petites extensions de maisons, etc., je voyais les tours du haut se construire à Paris, parce que je prends le train entre Montpellier, j'arrive gare de Lyon. Et en fait, les tours du haut se sont construites dans une indifférence critique, alors architecturale en l'occurrence, mais absolument invraisemblable. C'est-à-dire que l'idée de transformer tout d'un coup Paris en Londres, ça choque personne. Mais alors, il n'y a pas eu un seul article négatif dans Le Monde ou de je ne sais pas. Personne, aucun architecte n'a pris la parole pour dire nouvelle, moyen. Et en fait, le seul article que j'ai vu de manière négative, c'est un article qui est venu. Peut-être à la livraison, je crois, en disant c'est pas bien. C'est une ingénieure qui l'a fait, je crois, en disant c'est pas bien de construire des tours aujourd'hui parce qu'il y a des problèmes climatiques. Et en fait, je sais pas si avant même la réflexion de la condition climatique, etc., en fait la morphologie, etc., c'est des questions qui intéressent la ville. Et notre absence du débat public et le fait de sortir de ce cercle d'initiés, Ballard, il y arrive. Et je sais pas si donc effectivement il faut se convaincre nous-mêmes. Mais en fait, il faut reprendre la parole. Moi, le truc le plus important, c'est reprendre la parole dans des sphères où on est en lutte contre la communication. C'est information, communication, c'est toujours... En fait, on est en prise avec la communication.
Merci. Je pensais juste à ce que vous disiez tout à l'heure quand vous disiez que vous parliez d'un projet et qu'éventuellement un élu pouvait entendre, ou vous pouviez acculturer un élu. En fait, je pense à la situation dans laquelle on est quand on est en jury de concours. Et ça nous arrive tous, j'imagine. Et on est en fait finalement dans cette situation où on a, il y a plein de gens pour vérifier la conformité de programme, la conformité technique, la conformité financière. C'est recalculé en tous les sens. On vérifie si les images sont belles. Et puis après, tout le monde se retourne vers nous, hommes de l'art, et on se retrouve finalement dans ce moment d'analyse critique de projet. Ça dure en général 10 minutes. Et on a 10 minutes pour analyser, je sais pas, 10 panneaux et apporter un éclairage justement aux élus.
Je vous propose qu'on continue avec des interventions et ensuite vous pourrez répondre. Donc Hervé.
Merci. Hervé Davodeau, géographe et membre du réseau critique et puis abonné à Télérama. Donc ma question est pour Éric Chauvier. J'avais beaucoup apprécié votre texte dans Projet de paysage, vous l'avez dit. Et j'ai noté tout à l'heure dans votre intervention que vous, à un moment, vous avez employé le mot anthropocène et puis très vite, vous avez parlé de capitalocène. Et actuellement, pour les gens qui pensent qu'il est nécessaire de raisonner en termes d'anthropocène, l'enjeu, c'est de trouver le marqueur géologique qui permettra de statuer définitivement sur cette nouvelle ère géologique. Donc je crois qu'il y a un lac qui a été repéré au Canada. Ils font des recherches pour essayer de trouver le marqueur géologique qui permettra de le faire. Et puis en vous écoutant, je me disais que donc, vous vous positionnez plutôt dans le cadre de pensée du capitalocène, il me semble, et finalement vous nous proposez un autre marqueur à travers ces échangeurs autoroutiers. C'est moins difficile de trouver ce type de marqueur que de descendre au fond d'un lac. Et je me disais finalement que par rapport à cette critique de Télérama, donc pour ou contre Télérama. En fait, c'est peut-être pas la même chose de penser et de formuler sa critique dans le cadre de l'anthropocène ou de le faire dans le cadre du capitalocène. Et peut-être la différence, enfin, votre opposition, elle tient à ça, finalement. Donc je voulais savoir ce que vous pensiez de ma lecture. Est-ce que ça correspond à ce que vous avez en tête ?
Oui, bien sûr, il n'y a pas beaucoup de controverses là-dessus. Si on considère que, l'anthropocène remonte à l'invention du feu ou à la domestication du feu, l'empreinte de Néandertal, par exemple, sur l'empreinte carbone de Néandertal, elle est quand même assez nulle par rapport à celle de Gazprom, quoi, ou de Total Energy, je veux dire. Si, si. Donc, on le fait remonter à l'invention du watt, c'est-à-dire de la machine à vapeur. C'est un peu plus plausible, sans doute. Mais la première révolution industrielle, donc début 19e, et là encore, la courbe, elle est quand même exponentielle par rapport à ce qui se passe actuellement. Donc, c'est peut-être cette phase tardive là, du capitalisme, elle est quand même assez. C'est un bon marqueur, quoi, quand même.
Je vais juste répondre sur. J'aime beaucoup la métaphore sur le moment en jury de concours où on doit parce qu'effectivement c'est le moment où justement ça c'est la leçon, j'allais dire, de Dédale, c'est que on fait le lien, le architecte ou paysagiste, on est le lien entre le haut et le bas, quoi. C'est qu'on est un point de pivot où on explique vers le haut notre art. Et en fait, je pense que la critique, quand même, c'était, là on parle dans l'oreille des puissants. On est, en fait, quand on fait ça, on est en position de courtisan. Presque. Et en fait, il y a l'obligation de citoyen qui est de se retourner vers le bas et d'expliquer aussi ses choix, pour pas que ça se fasse en chambre et que ce soit complètement déconnecté. Et je trouve que la critique, ça peut servir à ça. La critique, j'allais dire, publique de projet, ça peut servir à expliquer quel est le point de vue d'un architecte, d'un paysagiste sur un projet, et pas qu'à des élus. Voilà. C'est que, en fait, il y a toujours la double entrée. Et je pense que le lien symbolique entre le haut et le bas, vous êtes concepteur. Vous passez le matin sur un chantier avec des gens qui parlent pas français, et l'après-midi, vous présentez votre projet à un directeur de région. En fait, et c'est la grâce de ce métier. Je veux dire, enfin, moi, je fais ce métier pour ça. Et du coup, on a une obligation vers le haut, et on a aussi une obligation, il me semble, vers le bas. Sans jugement de valeur entre haut et bas, hein, évidemment.
Frédéric Pouzin, merci pour ces trois exposés qui sont passionnants. Enfin, c'était un vrai plaisir que de vous entendre. Et j'aurais une question justement qui essaye de vous faire dialoguer. Voilà, en vous écoutant, j'ai eu le sentiment que la question du support de la critique était quand même un enjeu majeur. C'est-à-dire que c'est pas la même chose que d'écrire d'écrire un texte, de s'exprimer à travers le domaine du visuel, de la culture visuelle, ou alors de faire appel à la photographie pour véhiculer un propos critique. Et donc ma question, c'est voilà, pour vous, quel est l'effet attendu du support que vous privilégiez, et est-ce que finalement on fait la même chose quand on utilise un support plutôt qu'un autre ?
Je réponds très rapidement. Je crois que la question du support, il y a donc Debré, que j'ai montré tout à l'heure, il a une phrase qui est très belle. Dans cette époque-là, il est plus important de se faire entendre que de se faire lire. Ça, c'est quelque chose que je regrette. Moi, je suis, en fait, je suis déguisé comme ça, mais en fait, j'adore Balzac, et donc, c'est pas grave, c'est plus l'époque de Balzac. Et en l'occurrence, pour être opérationnel, c'est-à-dire si je veux parler à des gens qui me ressemblent pas, qui sont pas comme moi, je suis obligé de faire un effort et de comprendre qu'est-ce qui marche aujourd'hui. Et donc, je trouve que la posture de Léa, de dire, bon ben nous, on a un regard critique et on délègue ce regard que nous, on fait aussi à des photographes qui ont le charme, enfin qui ont l'art de rendre des choses. Enfin, les photos de Gaëtan sont magnifiques, là, de Chevrier. Et en fait, pour moi, ça relève de la même pratique. C'est-à-dire, en gros, de dire, on pense tout le bien, on pourrait l'écrire, tout le bien qu'on pense d'un territoire. Ça, on pourrait le dire, on pourrait très bien le dire. Et en fait, ça intéresserait peut-être des gens comme nous, mais peut-être pas tous les gens. Et je trouve que la BD, il y a plein d'options dans ce que tu montres qui sont indispensables. Et par contre, effectivement, le fait que moi je me nourrisse, que je nourrisse pour ma nécessité de transformer le réel, que je me nourrisse d'écrits d'Éric Chauvier, parce que j'ai besoin de structurer ma pensée, etc. Donc en fait, c'est pas, je veux dire, c'est un lien qui se fait, qui est transversal. Enfin, je me permets juste.
Mais juste, est-ce que l'architecture ne peut pas produire formellement un discours critique? Je pense à cet architecte africain qui a créé cette tour tout en tôle à l'image d'un bidonville. Donc évidemment que c'est, à mon sens, une création critique. Voilà, c'est juste pour alimenter le débat. Mais...
Sûrement. Oui, bah... Oui, nous, on dit quelque chose par les projets qu'on produit. Donc après, avant tout, quand même. Moi, je ne sais pas complètement bien répondre à ça, parce que pour l'instant, ce que je trouve intéressant, c'est la multiplication de ces tentatives, en fait, et de la diversification des formats. Les photos qu'on a vues, elles ne sont pas en tant que telles, une critique de quoi que ce soit. Pour l'instant, c'est un matériau qui est non traité, enfin, je veux dire, qui n'a pas fait l'objet de ce regard, de cette distance. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le considère, comme étant un matériau qui peut-être un jour on arrivera à regarder comme justement pour produire une autocritique de nos projets, mais c'est un peu tôt pour y répondre. En tout cas, aujourd'hui, tout ce que j'ai présenté là ne s'est pas adressé au public, pour le coup, pour revenir sur la question d'avant. C'est-à-dire que ça reste quelque chose en chambre qui n'a pas été médiatisé, qui, pour l'instant, ne s'est pas adressé à l'extérieur. Peut-être un jour, mais en tout cas, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, voilà. Non, mais
juste pour rebondir, effectivement, mais quand même, le fait de déléguer la question de dire tout d'un coup, ce territoire, il est beau, mais moi, je suis paysagiste, architecte. Nous, on travaille avec Cyril Weiner et Jaime Meloni, qui sont des photographes. On leur fait photographier des choses qu'on appelle ordinaires, parce que qu'on trouve dans les zones périrurales, rurales, etc. Et en fait, nous, si on le photographie, c'est l'enfer, quoi. Enfin, moi, je ne suis pas photographe, je photographie très mal, et en fait, je n'arrive pas à communiquer mes idées. Mais j'ai l'idée critique de dire, on peut regarder ça différemment, on peut le regarder bien, on fait appel à des mecs qui savent faire ça. Et en fait, ça, c'est déjà un regard critique, je veux dire, sur le territoire. Et en fait, même si ce n'est pas traité encore, la manière de le montrer, là tu nous l'as montré, et en fait c'était des très belles photos, et en fait ça veut dire que je pense que on pourrait faire appel, tu pourrais dire à un autre photographe, ça serait un bon exercice de dire mais va photographier ça d'une manière misérabiliste et où c'est l'enfer, quoi. Et je pense qu'il pourrait y arriver, en fait c'est pour être un exercice, et sauf que c'est pas évidemment ce que tu attendais de lui parce que sinon ça serait pas, et je veux dire, il y a déjà ton point de vue dans la commande que tu fais à Chevrier. Et je trouve que c'est, et ça correspond effectivement. Et l'idée, c'est sur les, je l'ai montré très rapidement, mais le bâtiment que j'ai fait à Blois, qui est à la chaussée Saint-Victor, pas loin. Quand je dis que c'est plus important que tout ce que je dis, en fait, effectivement, sur les notions d'ordinaire extra, le fait de constituer une architecture là où on l'attend pas, c'est-à-dire sur des hangars qui protègent du sel pour dessaler les routes, qui sont en entrée de ville partout dans la région centre, ça me semble d'une portée critique énorme, en réalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'architecte qui travaille là-dessus. J'ai eu l'occasion de travailler dessus. J'en ai fait 8 dans la région centre. Et en fait, il y a plein de choses à raconter sur ces hangars. Mais en réalité, tout d'un coup, on s'est mis à travailler avec des gens qui n'avaient jamais fait appel des architectes et qui sont maintenant convaincus. J'ai le patron de Vinci Autoroute dans la région centre. Il adore les architectes. Alors que jusque-là, il n'en avait jamais rencontré. Et je trouve que ça, c'est la plus grande victoire. Et en l'occurrence... vous avez la région centre, alors peut-être qu'il y en a qui les détestent, mais en gare, mais je pouvais écrire un papier dessus, et c'est pas grave, je le recevrai. et en fait, je trouve que, évidemment, n'importe quel projet rencontre une critique, et en fait, il y a un truc qui est plus fort que le même, hein, c'est que ça reste, quoi.
Bon, moi, je voulais... la rencontre avec Yann Le Gouy est pour moi un événement, d'une certaine manière, parce que je crois que c'est l'architecte avec lequel je peux être le plus d'accord sur certaines choses et absolument pas d'accord sur d'autres dans la même présentation. Alors c'est compliqué, mais ça pose des questions qui sont à mon avis assez intéressantes. Dans un premier temps, j'ai cru comprendre, dans ce que vous avez dit à la fin, que vous pensiez qu'en fait l'écriture était minimisée par rapport au discours, dans le domaine politique notamment. Bon, ça, c'est pas de la discussion, c'est pas de la transmission, c'est de la communication. Alors moi, j'isolerais le discours de communication, qui est celui effectivement des politiques, de gens qui ont des stratégies, qui est simplement un discours de représentation, où tout est faux. C'est les championnats du monde de la langue de bois, quand même. Donc ça, c'est une chose, pour ne pas dire langue de bois, parce que ça, c'est pour ne pas le dire. Et d'un autre côté, le discours qui amène des discussions, et qui, à mon avis, lui, est complètement minoré. C'est-à-dire ce qui, moi, m'intéresse, parce que j'écris très mal, sans doute, parce qu'il y a toujours une raison pour préférer un truc à l'autre. Et l'écriture, qui est pour moi un calvaire, n'est pas un moyen de faire passer les choses. Et en réalité, ce qui est écrit est quand même la seule manière de se représenter. C'est-à-dire, celui qui n'écrit pas n'est rien, aujourd'hui, malgré tout. Il n'y a personne, mais personne, invité à France Culture, dont on ne dit pas qu'il vient de sortir un livre. Quelqu'un qui ne vient pas de sortir un livre, on ne lui demande même pas ce qu'il pense. Voilà. Donc on est vraiment quand même dans une société de l'écrit, d'une certaine manière. Même si effectivement, de l'autre côté, les politiques marchent complètement autrement. Pas mal de monde. Mais attendez, je ne suis pas sûr que inscrit. Non, mais bon, je continue quand même, parce que c'est assez important. Je pense que c'est vrai partout. Parce que vous prenez Culture, après vous allez prendre tous les gens à la télé, tout le monde a toujours écrit. Et tout le monde a déjà tout lu, puisque, évidemment, dans les chaînes de ce type-là, on ne lit pas, on relit. On a déjà tout lu il y a longtemps. Bon. Continuons sur cette position, qui me paraît assez, quand même, bon, c'est une chose, je pense, mais ça ne touche pas forcément tout ce que vous avez dit. Par ailleurs, j'étais très intéressé par toutes les luttes et la manière même dont vous l'avez fait, à la fois parce que c'était agréable à écouter, efficace et juste, je pense. Toute cette lutte contre Réinventer Paris, on ne peut que être d'accord. La lutte contre Missika, qui est une crapule internationale, je suis évidemment d'accord aussi, parce que c'est quelqu'un qui a vraiment tué, un peu plus frais, qui a vraiment tué l'urbanisme dans Paris, qui a transformé la notion d'urbanisme, qui n'existe plus, puisque dans Paris, il n'y a pas d'urbanisme, en fait. Il y a des opportunités foncières pour faire des coups. Et effectivement, comme il était en relation avec des gens à qui... Enfin bon, c'est une histoire de pot de vin, en fait, cette histoire d'urbanisme. Donc ça, je suis assez d'accord. La manière dont vous le faites est très efficace. Je suis d'accord avec vous, j'étais un des premiers à gueuler sur le travail de Nouvelle. D'ailleurs, pas seulement sur Paris, mais sur ce qu'il a fait beaucoup dans les... tout ce qu'il a fait partout, où c'était pire que les... Dans tout ce qu'il a fait partout, parce que partout, il a semé la mort aussi dans les ouvriers, partout, comme ce qu'on avait dit sur les terrains de foot. Il a fait pareil. D'ailleurs, ils étaient pas que tout seuls pour faire ça. Bon. Là-dessus, on est d'accord. Mais alors que ça commence par un éloge de Huette, alors là, je tombe de mon siège. Moi. Parce que Huette, quand même, en plus, l'objet que vous montrez... Stalingrad, qui est quand même un des plus mauvais espaces de Paris, à la fois dans le type constructif, puisque 5 ou 6 ans après sa construction, on a tout refait tellement il ne savait pas construire. Deuxièmement, parce que toutes les petites cagnas faites autour, c'est tellement lamentable, ça vit tellement mal, qu'il y a des clôtures devant depuis 15 ans, que le bassin qu'il avait mis sur le côté, bah, ça ne marche pas comme bassin, on l'a rempli de terre, on a mis des fleurs dedans. Oui, mais ça, c'est tout. Bon, ben si, c'est quand même assez important, parce que tout d'un coup, on fait l'éloge d'un mec qui est quand même un peu compliqué, quoi. Et après, il gagne Bercy parce qu'il est salarié du maître d'ouvrage. Bon, c'est tout.
Juste extrêmement rapidement et à la suite de ce que a dit Frédéric Pouzin, je trouve que dans ce que vous avez fait à Saint-Nazaire et dans le travail de reconduction photographique avec Gaëtan Chevrier, je trouvais que c'était assez beau d'une forme de générosité vis-à-vis de la critique, c'est-à-dire aussi de produire des représentations, de produire des éléments qui deviennent un vrai lieu de dialogue et un vrai lieu de la critique. Et c'est, je pense que c'est ça qui est assez beau dans ce travail photographique-là.
Bonjour, Audrey Marco de l'École du paysage de Marseille, enseignante-chercheuse en écologie. C'est une question plus à Léa Hommage. Quand vous avez pris la parole, vous avez dit que vous faisiez des lectures de banques publiques dans l'agence. Et du coup, je voulais savoir un petit peu comment ça se passait et qu'est-ce que vous visiez en fait à travers ces lectures dans l'agence et auprès des personnes qui vous accompagnent.
Réponse très courte, m'a-t-on dit. Non, mais ça va avec d'autres choses. Ça va aussi avec le fait d'aller visiter des projets ensemble. En tout cas, c'est une tentative de constituer une culture commune du projet d'espace public. Et qu'effectivement, on a besoin pour ça d'une matière qui, qui soient facilement accessibles et mobilisables dans des temps qu'on sait être courts, qui sont ceux de l'agence, c'est-à-dire qu'on n'a pas non plus des plages de temps très importantes à consacrer à autre chose qu'aux projets sur lesquels on est en train de travailler. Mais voilà, donc en l'occurrence, ça prend la forme de café-projet, ça s'appelle comme ça, un lundi par mois. Et c'est l'occasion, effectivement, de mettre autour de la table voilà, soit des projets visités, soit des lectures. En tout cas, on essaye de faire ça. Voilà.
J'avais trois questions, et du coup, c'est pas possible. Alors, je vais en garder deux quand même. Pour Éric Chauvier, cette notion de paysage critique est très intéressante, bien sûr, difficile à cerner, je trouve, parce que par certains côtés. Par certains côtés, je le comprends comme une forme de dénonciation d'une situation urbaine, périurbaine, périmétropolitaine dont vous signalez la négativité. D'un autre côté, vous êtes connu pour porter un regard sur ce type d'espace qui n'est pas à proprement parler un regard appréciatif et certainement pas dépréciatif. Je pense que, si vous voulez, la question que je me pose, c'est cette posture étant ce qu'elle est, dans toute sa complexité, je pense que c'est une posture d'anthropologue, comment est-ce que vous penseriez, si vous les pensez, les relations entre l'anthropologie et la production d'une critique de projet d'espace public ? Voilà. Est-ce que dans quelle mesure cette posture-là peut constituer un aliment pour construire ce type de critique ? Et puis Léa, alors moi je trouve que ton exposé met en évidence un aspect extrêmement important de l'objet dont on parle tous ensemble pendant ces deux jours, les projets d'espace public, qui est leur circularité. C'est-à-dire le fait que, et Corajou le disait très, très nettement d'ailleurs, on intervient toujours sur les projets des autres, on est là plutôt dans une espèce de passage de relais, dont on est plus ou moins conscient, simplement. Et donc là, ce que je vois, c'est que ta pratique de la critique, enfin, je sais pas si tu l'appellerais spontanément comme ça, permet d'organiser ce passage de relais. Et je trouve que c'est important de mettre en évidence cette circularité du processus de production de l'espace public, parce que par rapport au débat qu'on a eu ce matin sur le positionnement de la critique, est-ce que ça doit être à l'intérieur du processus de conception, est-ce que ça doit être à l'extérieur, ça permet en fait de comprendre que cette question n'a pas véritablement de sens quand on aborde cet objet-là, puisqu'on est nécessairement en fait quelque part à l'intérieur. Voilà. Le tout, c'est de savoir à quel endroit on se trouve à l'intérieur de ce processus de conception. Et je poserai ma question à Yann Le Gouy à part.
Et donc, je vais juste enchaîner avec une question très simple qui s'adresse plus directement à Léa. C'était est-ce que tu accepterais qu'une critique soit faite du projet que tu nous as montré sur la base de ces images?
Vu que j'ai la question la plus... Oui, bien sûr. Oui.
J'ai la question la plus compliquée. Je pense que l'idée, là, c'est vraiment de travailler ces territoires ou ces paysages, ce qui n'est pas du tout la même chose, finalement, mais toujours de façon un peu sophistiquée, ambivalente. Et habituellement, je travaille toujours avec les registres de discours, c'est-à-dire en essayant de comprendre ce que les sociologues appellent la logique d'acteur, mais pour moi, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que c'est comment chacun a sa parcelle de vérité sur un problème donné, quoi. Et là, c'est assez frappant sur l'échangeur numéro 9, où ça serait, je ne peux pas faire un truc à charge contre les aménageurs, les aménageurs, il n'y en a pas de toute façon, mais contre les orientations métropolitaines, sans aller voir ce qui se passe du côté de ceux qui tiennent ce discours-là, les usagers, etc. Donc c'est arriver à faire réapparaître la complexité d'une situation, ses ambivalences, pour que des questions un peu inédites émergent aussi, à partir des registres de discours. Voilà ce que j'appelle les registres de discours. Un exemple assez frappant qu'on a vu avec nos étudiants à Versailles, c'était la décharge de Mbeubeus au Sénégal, où nos étudiants étaient scandalisés par la décharge de Mbeubeus au Sénégal, puisque c'est une décharge immense à ciel ouvert, où des personnes travaillent, vivent même sur la décharge. Et ensuite, on s'est rendu compte qu'en travaillant sur les registres de discours, justement, les personnes qui vivent sur la décharge avaient aussi une parole qui remettait en balance un peu tout le discours occidentalo-centré qu'on pouvait avoir, parce qu'eux vivaient mieux que ceux qui ne travaillaient pas sur cette décharge. Donc ça pose vraiment... je pense qu'on gagnera tous à travailler plus en nuance et plus avec la sophistication de ces objets-là. Quoi. C'est toujours intéressant d'approcher les choses comme ça.
Et moi, c'était plutôt de remarques sur Bernard Huet. C'est en fait. Alors moi, je suis pas un spécialiste de Bernard Huet parce que j'ai été la place Stalingrad, a été faite bien avant que je sois né. Et malheureusement, il n'y a pas de critique de cette place-là. Donc moi, je me balade, je vais au resto à côté, et je trouve ça bien. Et je sais pas exactement ce qui a pas été bien, si on a refait les sols 2 ans après. Donc en fait, tout ça, je sais pas, mais j'adorerais le lire. Et en fait, je crois que le rôle de la critique, ça serait de permettre à des gens qui s'intéressent à des projets comme ça, bah, éventuellement, de dire, bah, voilà, Bernard Huet, c'est quelqu'un qui s'est planté. Et moi, j'ai montré Baudelaire qui s'est planté. Il a aimé Courbet et Delacroix, mais en fait, il en a aimé plein d'autres qui sont pas retenus par l'histoire. Et moi, je me définis comme un chevènementiste décroissant. Donc, en fait, je suis toujours du côté des perdants. Et en fait, c'est pas grave de se planter, quoi, dans la vie, je crois. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est excusable, si on comprend. Voilà.
C'est un peu décousu, quand même. Hein, mais bon, moi, je vais juste répondre. Il n'y avait pas vraiment de question dans la remarque de Denis sur la circularité des projets de paysage. Mais je dirais quand même une chose, c'est que j'ai l'impression que cette question du fait de revenir sur les projets qui nous ont précédés, je pense quand même que ça va devenir de plus en plus vrai. C'est-à-dire que on a parlé du ZAN rapidement ce matin, mais le fait de réintervenir sur de la ville constituée, alors c'était déjà le cas avant nous, hein, c'est pas complètement nouveau, mais je pense qu'il y a une accélération aussi des temps de la transformation de l'espace qui font que revenir sur ce qui a été pensé juste avant nous, enfin. Moi, j'ai pour habitude de dire, quand je présente l'agence, que le premier projet qu'on a fait, c'est la place des Érables à Nantes, et que c'était un projet de réintervention sur un projet d'Alexandre Chemetov qui avait 10 ans. C'est-à-dire absolument rien, quoi. C'est même pas le temps de... Parce que, en fait, il y a un îlot bâti, enfin, un îlot qui s'était construit sur l'espace public. Du coup, ça avait modifié une question de circulation, et donc il fallait refaire un projet sur un projet qui avait à peine 10 ans. Et voilà, ça a été assez fondateur aussi pour nous de commencer. Enfin, notre premier projet d'espace public, ça a été ça, ce qui est quand même un peu particulier. Et je crois que du coup, effectivement, ça nous a assez vite incité à toujours regarder, voilà, ce qui s'était fait avant nous, mais parce que là, c'était un peu caricatural. Mais et voilà. Donc, je pense que par ailleurs, c'est une question qui va se poser de plus en plus, ou en tout cas de manière peut-être de plus en plus prégnante. Parce que voilà, on construira plus sur les champs et c'est une bonne chose. Donc, on peut quand même pas dire qu'un champ ait exactement la même dimension projectuelle que là un espace public qui a déjà été aménagé. Ou peut-être que si, mais ça c'est un autre débat. Enfin voilà. Donc je pense que oui, c'est une question d'importance, mais qui demande du coup d'avoir accès à des archives et ça pose la question des archives du projet de paysage.
Merci beaucoup. On va finir cette session là-dessus. On vous remercie vraiment encore tous les trois et puis les autres personnes précédentes avec, comme on dit sur un média public qui a déjà été cité, le programme de votre avant-soirée qui va se dérouler de la manière suivante. Donc on a dans cette salle à 18h, donc dans 3/4 d'heure maintenant, une conférence de Sébastien Marot. Et puis, à l'issue immédiatement de la conférence, sans trop vous disperser, s'il vous plaît, on ira ensemble voir le vernissage de l'exposition qui a été préparée dans le hall par certains membres du réseau critique autour de la question des revues. Et on pourra partager un verre en parcourant l'exposition à ce moment-là. Merci encore à toutes et à tous, et donc à tout à l'heure, 18h ici.
Les états généraux de la critique du projet d'espace public. Un podcast réalisé par Charlotte Mutel de l'association La Vitrine Itinérante.